La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde. Nous sommes dans les années 70, aux États-Unis, en pleine guerre du Vietnam. Si les militants pour les droits civiques ont gagné contre la ségrégation institutionnalisée, si les lois fédérales reconnaissent les Afro-Américains comme des citoyens à part entière, avec droit de vote et accès à l'éducation sans ségrégation, la réalité, elle, n'a pas changé. C'est même tout le contraire. La répression n'a jamais été aussi forte à l'égard des Noirs et de leur soutien. La violence éclate partout, et comme partout dans le monde, la jeunesse se révolte, tandis que les Afro-Américains sont considérés comme des ennemis à abattre. Dans un tel contexte, comment sauver ses propres enfants? C'est la question que se posent Jean et Melvin McNair. Ils sont entrés dans la clandestinité et ils vont finir par décider de détourner un avion pour rejoindre les Black Panthers à Alger. Comment en sont-ils arrivés à une telle extrémité? C'est ce que nous explique Melvin McNair. Il est devenu un modèle d'intégration et de vivre ensemble dans sa région, la Normandie. Oui, c'est dans cette ville française de Caen que je l'ai retrouvé. Et si Melvin McNair n'a pas changé le monde, il a changé le destin de nombre d'enfants de son quartier baptisés à la grâce de Dieu, et ça, je ne l'ai pas inventé.
Hello. Enchantée.
Enchantée.
Bonjour, donc je suis Valérie Nivelon de RFI.
Voilà, bonjour, je suis Melvin.
Melvin McNair.
Oui, de Caen.
De Caen.
Et donc nous sommes à la grâce de Dieu.
Voilà. Et la grâce de Dieu, donc, c'est le nom du quartier.
Du quartier, donc c'est voilà, quand vous êtes arrivé là.
Oui, donc là, on est au centre culturel dans le quartier de la grâce de Dieu. On entend les enfants qui jouent au
square. Oui, c'est parce que c'est un petit crèche.
C'est un lieu hyper important pour vous, ce centre social?
Ah bah oui, très, très important parce que c'est, on peut dire, c'est un lieu stratégique au niveau de l'accompagnement des parents, les enfants, et donc ils sont très, très impliqués dans cet accompagnement, et donc parmi d'autres partenaires, mais c'est un partenaire très stratégique, on peut dire.
Donc vous m'invitez à rentrer dans le centre culturel. On va aller se poser un petit peu revisiter donc, un peu votre parcours étonnant.
Si, c'est étonnant, oui. C'est pas très orthodoxe, on peut dire. Bonjour.
Melvin, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de Melvin McNair, étudiant dans les années 60. Vous avez quel âge en 1968?
Donc, en 1968, j'avais 20 ans. J'avais gagné une bourse à l'université pour jouer du football américain et aussi du baseball. Et à ce moment-là, j'ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer Jean, qui était très brillante et donc ce qui m'a accompagné aussi, motivé pour mes études.
Vous êtes amoureux de Jean. Jean, elle est un petit peu plus âgée que vous. Est-ce qu'elle est plus engagée que vous déjà à l'époque?
Oui, Jean, pour moi, parce que Jean était plutôt côté intellectuel. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle avait aussi travaillé. Elle avait beaucoup lu. Donc, elle était à un niveau culturel très élevé, un peu plus que le mien.
Elle vous impressionnait?
Oui, tout de suite. Donc, c'était un peu, on peut dire, j'aime pas trop le mot, mais c'était un petit coup de foudre. Donc, c'était pas évident. Hein. J'ai été obligé de ramer un petit peu pour convaincre que j'étais un peu sérieux. C'était pas facile.
Pierre Charpentier, le journal d'Interactualité.
Le pasteur Martin Luther King, le chef de file du mouvement noir non violent aux États-Unis, a donc été assassiné.
Lorsque vous êtes tous les deux étudiants donc, à l'université en 1968, le 4 avril, le pasteur Martin Luther King est assassiné. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là, Melvin?
C'est un choc brutal. Donc après, on commence à dire que rien n'était sacré.
Il est 7h du matin à Memphis. Le couvre-feu vient d'être levé depuis 2h. La ville reprend son activité après l'attentat du docteur Martin Luther King. Hier soir, des femmes noires ont brisé des vitrines. et la police est intervenue.
Déjà, on n'avait pas beaucoup de délusions parce qu'il y avait beaucoup de martyrs et beaucoup de brutalité, beaucoup de gens qui étaient sauvagement assassinés et tués parce qu'ils étaient noirs. Ou aussi, il y avait des blancs qui étaient sympathisants avec des noirs aussi, qui étaient aussi assassinés, pareil, de Mississippi Burning. Moi, personnellement, on commence à mettre beaucoup de choses en question, et aussi Jean aussi. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'on est tous ciblés. On savait qu'on était tous ciblés. Il n'y avait pas de barrière qui peut empêcher les policiers de réagir pour tuer ou assassiner des militants. Rien n'était sacré après.
Deux jours après l'assassinat de Martin Luther King, une fusillade implique des membres du Black Panthers Party dans la ville de Memphis, parmi lesquels Lil Bobby Hutton et Eldridge Cleaver. Lil Bobby Hutton est tué par la police, il a 17 ans, ce que dénonce haut et fort Eldridge Cleaver.
Ces porcs ont voulu me tuer. Ils m'ont blessé à la jambe. Ils ont tué Bobby Hutton. Et ils allaient me tuer. Si je ne suis pas mort, c'est parce que ces porcs ont choisi de descendre Bobby avant moi. Trop de gens sont sortis de chez eux en criant à ces porcs d'arrêter. À quoi bon avoir échappé à cette tentative de meurtre si je ne donne pas ma vie à la lutte qui détruira le système qui a assassiné Bobby Hutton et tant d'autres membres de notre parti? Ma vie appartient à la révolution américaine et je suis prêt à la donner pour elle.
Vous savez que de toute façon, nous sommes des cibles. Donc après, il faut faire très attention que de ne pas trouver dans une situation où on est isolé de subir des brutalités policières ou des Ku Klux Klan, parce qu'on était issus du Sud. Et donc, on sait qu'il faut résister. Et comme j'étais élevé dans un monde sportif où, au niveau d'esprit d'équipe, au niveau de l'adversité, donc il faut être costaud, fort, courageux aussi. Donc on est formé pour se défendre. Et donc c'est là qu'aussi on est allé un peu vers les Panthères, parce que doucement, c'était un mouvement pour nous de self-défense. C'est pas un mouvement qui était issu de violence, c'était plutôt de violence qui était imposée à eux, donc il fallait réagir, donc de se défendre. J'ai eu des moments difficiles parce qu'on avait une évolution de nos consciences vis-à-vis du racisme qui allait autour de nous. Et donc, parfois, il y a certains qui laissaient pousser les cheveux. Et donc, après...
La coupe afro.
Et qui n'était pas très bienvenue à l'époque parce que, bon, les sportifs, les chaussures sont toujours serrées, les coupes sont toujours nettes. Donc, après, c'était une évolution. Et parfois, ça n'allait pas... C'était une contradiction avec l'idée que ce que les entraîneurs avaient de nous.
En tant que capitaine d'équipe universitaire de football, capitaine noir, d'une équipe noire, évidemment vos envies de défendre votre cause transparaissent dans vos tenues, dans vos coiffures, et en fait ça vient un peu déranger l'ordre établi. Vous êtes un peu comme des rebelles.
Oui, au début, on suivait tout au début, parce que bon, il fallait être un bon sportif, discipliné, et donc, oui, chef, quand il dit saute, on saute, et comme ça, mais bon, il y a un moment donné, il y a certains trucs que j'ai vis-à-vis des injustices, c'était difficile d'encaisser. Donc,
c'est difficile d'encaisser le racisme tous les jours.
Le racisme, c'est pas, ça c'est sûr, mais c'est aussi être agressé ou d'avoir une attitude condescendante vis-à-vis de nous, comme ça, pour nous casser le moral au lieu de construire. Donc souvent, on est avec beaucoup d'entraîneurs qui nous traitent comme des bêtes et des billes, comme ça, ils nous cassent, essaient de nous casser le moral au lieu de nous encourager. Entre les insinuations, les insultes vis-à-vis des autres joueurs, des choses comme ça, ça nous touchait, donc on n'acceptait pas.
Amazing grace, How sweet, sweet
the sound,
that saved a wretch like me.
Melvin McNair n'a pas le profil d'un révolutionnaire. Melvin est un athlète brillant et il excelle dans plusieurs sports, le football américain, le baseball et le basket. Il est soutenu par sa famille, originaire de Caroline du Sud. Melvin croit à sa réussite sociale et il n'a jamais raté le rendez-vous de la messe, chaque dimanche, à l'église.
J'étais enfant de chœur, donc j'ai chanté. Ça fait partie des choses, comme le théâtre, on était, donc il y avait des pièces. On avait, au niveau culturel, on peut dire que l'église était très impliquée, aussi avec le sport.
Qu'est-ce que vous aimiez chanter, vous?
Ben, ça dépend. J'ai maintenant Amazing Grace, par exemple, c'est surtout comme ça, parce que c'est lui qui vient à l'esprit. Mais je
Et
suis
vous vous souvenez du refrain?
Non, mais tu ne veux pas chanter
non,
Amazing
mais
Grace.
Les paroles.
Amazing
paroles.
Grace, a sweet sound, you know. Yeah, un peu. J'étais drafté pour l'armée. On est appelé. Dès qu'on n'est pas à l'université, quelque chose comme ça, on est éligible pour être convoqué. L'armée, à un moment donné, c'était comme un jeu. Et jusqu'à un moment donné, il fallait qu'il ait aussi essayé de casser ma volonté pour apprendre à tuer.
Melvin, racontez-moi votre arrivée à la caserne à Berlin.
La première chose qui m'a touché à Berlin, c'était le fait qu'un de mes amis qui était attaqué par un groupe de blancs, un noir qui était attaqué par un groupe de blancs. Donc déjà, on savait qu'il faut qu'on fasse très attention parce qu'on était, quel que soit tout, qu'on était noir et on n'était pas aussi le bienvenu. Après, quand on se rend compte aussi, c'est plus flagrant des injustices dans l'armée à Berlin. Et là, il fallait qu'on s'organise de plus en plus résistant. On ne pense pas de se résister au début. C'est comme on commence à travailler, se lever à 8 heures, d'aller au boulot, et on voit ce racisme quotidien. Donc on est décidé, quand même, on ne peut pas accepter ça. Donc on commence à refuser d'accepter les ordres qui sont considérés comme racistes. On a commencé à se plaindre, et donc après, plus qu'on se plaint, plus qu'on était ciblé. Plus qu'on était réprimé et aussi plus qu'on commençait à avoir aussi notre identité. Parce qu'à l'époque, le mouvement droit civique était en train de subir aussi beaucoup de répression. Donc après, les Black Panthers plus en plus brutalisés. Donc après, on s'est rendu compte que, et même aussi dans l'armée américaine, on s'est rendu compte que même en Vietnam, qu'il y avait beaucoup de racisme, beaucoup de soldats afro-américains qui étaient envoyés vers le front et on peut dire tués. Donc après, parce qu'il y avait des ordres de racisme, et donc des afro-américains commencent à résister. Donc ils commencent à avoir une résistance globale en ce qui concerne les afro-américains, mais c'est soit dans la prison, soit dans les universités, soit dans l'armée, la marine et tout. Donc il y avait un soulèvement global au niveau des Afro-Américains. Et donc à un moment donné, on commence à résister collectivement.
Fred Hampton, membre des Black Panthers, à Chicago en 1969, quelques mois avant son assassinat par la police.
Notre classe s'est divisée. Ils disent que je suis noir et que je déteste les blancs. Je suis blanc et je déteste les noirs. Je suis latino-américain et je déteste les pecnos. Je suis Pecno et je déteste les Indiens. Nous nous battons entre nous. Les Black Panthers ne peuvent pas accepter ça. On ne combat pas le feu, mais par l'eau. Et on combat le racisme par la solidarité.
Que représente Fred Hampton au sein du Black Panther Party? Et que représente le Black Panther Party pour un jeune sportif brillant et conscientisé comme Melvin McNair? Réponse de l'historien Sylvain Patieu. Il est l'auteur du livre Pirates et Panthères, paru aux éditions La Découverte.
Fred Hampton, c'est un dirigeant local des Black Panthers qui, à un moment donné, théorise en fait une coalition qui serait très large. C'est-à-dire qu'il y aurait les Black Panthers qui regrouperaient les Afro-Américains, mais ils voudraient prendre contact avec d'autres minorités ou avec d'autres personnes qui luttent, y compris des Blancs, pour essayer de faire donc ce qu'il appelle la coalition arc-en-ciel, donc en anglais Rainbow Coalition, et donc quelque chose de large, quelque chose de très inclusif avec tout le monde. Et bon, il y a des pourparlers qui sont engagés avec d'autres organisations, mais il est assez rapidement assassiné dans son sommeil. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup choqué à l'époque parce que on voit des photos en fait de Fred Hampton qui est mort au pied de son lit, qui est en caleçon et en t-shirt, quoi, qui s'est fait tirer dessus. Donc là, on voit bien aussi les méthodes de la police à ce moment-là, de répression très forte et qui vont jusqu'à l'assassinat.
Sylvain Patieu, comment comprenez-vous le fait que Melvin McNair, qui est un sportif brillant à l'université, qui croit en l'éducation comme ascenseur social, finisse par se tourner vers les Black Panthers, qui est un mouvement qui préconise le self-défense et donc l'utilisation des armes?
Au milieu des années 1960, il y a trois phénomènes qui se produisent à peu près en même temps, qui sont concomitants et qui expliquent que des personnes comme Melvin McNair ou Gene McNair, qui étaient plutôt très pacifiques et qui étaient engagés dans des études, qui étaient engagés dans le sport, qui expliquent que ces personnes-là, avec ce profil-là, deviennent des militants révolutionnaires. Le premier élément, c'est le mur de violence auquel se heurte le mouvement des droits civiques. Donc c'est un mouvement qui est ancien, qui est très puissant, qui s'appuie beaucoup sur des idéaux de pacifisme et sur un combat juridique, qui remporte des victoires. Mais à partir du milieu des années 60, il commence à y avoir une réaction assez vive du côté des Blancs. Alors pas tous les Blancs, bien sûr, mais beaucoup de Blancs, et notamment la police et les milices dans le Sud, avec le Ku Klux Klan dont parle Melvin dans son témoignage. Et donc il y a des limites. Et ces limites, c'est la limite de la violence qui est employée contre le mouvement des droits civiques. Et le point culminant de tout ça, c'est l'assassinat de Martin Luther King, qui est suivi par, pas longtemps après, par l'assassinat de Bob Lil Hutton. Donc il y a vraiment comme une sorte de passage de relais entre ce dirigeant charismatique qui était très respecté dans tous les États-Unis, mais qui se retrouve malgré tout assassiné, et ce jeune homme de 17 ans qui était engagé dans un combat plus radical, inspiré par Malcolm X et dans ce très jeune mouvement des Black Panthers qui n'est pas très connu encore à l'époque. Donc il y a vraiment l'idée que les voies traditionnelles qui étaient celles de la dignité, des institutions, dont parle Melvin, il parle de l'institution de l'école, de l'université, de l'institution sportive, la religion, que tout ça c'est des institutions qui se retrouvent bloquées, que le mouvement pour les droits civiques est bloqué et qu'il faut passer à une autre échelle, qu'il faut passer au fait de rendre les coups, ne plus tendre la joue. Ça qui est important, c'est ne plus se laisser faire, ne plus tendre la joue. Et donc c'est l'état d'esprit qui anime Melvin et Gene à ce moment-là, mais qui anime de très nombreux jeunes afro-américains. Et le deuxième phénomène, c'est un phénomène qui est très vaste, qui est à l'échelle du monde entier, en tout cas du monde occidental, qui est un phénomène de refus de l'autorité, de refus de l'autoritarisme. Ça, on le voit en France avec mai 68, par exemple, où les étudiants, mais aussi les ouvriers, contestent l'autorité dans les usines, dans les universités. Pour Melvin, lui, ça se passe, c'est un sportif, donc ça se passe dans son équipe de foot. Et on voit bien, quand il parle des coachs, on voit bien qu'ils étaient sur un modèle assez archaïque de gestion de leurs sportifs, avec une autorité qui reposait sur l'humiliation, qui reposait sur l'autoritarisme, sur une certaine violence aussi. Donc ça, ils refusent. Et en ça, ils sont représentatifs d'une bonne partie de cette jeunesse mondiale dans les années 60 qui refuse l'autorité, qui refuse l'autoritarisme. Et donc ça conduit Melvin à être renvoyé de l'université, à être envoyé à l'armée. Et là, on rejoint ce troisième phénomène qui est celui de la guerre au Vietnam. La guerre au Vietnam, dans les années 60 aux États-Unis, c'est un véritable traumatisme parce que c'est pas seulement des soldats professionnels qui sont envoyés, pas seulement des soldats professionnels qui sont tués, mais c'est des jeunes conscrits. Et donc toute une partie de la jeunesse populaire et de la jeunesse des classes moyennes des États-Unis est envoyée se faire tuer au Vietnam. Et ça entraîne un regain d'anti-impérialisme. C'est-à-dire que cette guerre, elle est refusée. Il y a des manifestations dans beaucoup d'universités. Il y a une répression. On connaît par exemple la répression à Kent State University à la fin des années 60 qui conduit à la mort de plusieurs étudiants blancs. Que ce soit les blancs ou les étudiants noirs aux États-Unis, ils sont tous en révolte contre la guerre du Vietnam parce que tout simplement, ils ne veulent pas aller mourir là-bas.
Melvin McNair, comment entre-vous, soldat noir à Berlin, vous vous reconnaissiez en tant que militant, en tant que jeune conscientisé?
On commence à changer de coupe de cheveux, donc après à un moment donné, on essaye, on ne pouvait pas avoir un afro, mais fallait que nos cheveux ne dépassent pas nos casquettes, donc on a laissé pousser les cheveux. On a commencé à porter des bracelets noirs. Aussi, on a refusé de se mettre debout pour l'hymne national, pour saluer le drapeau américain.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Votre amoureuse Jean vient à Berlin, elle porte votre enfant. Et alors, vous allez devenir papa, Melvin McNair, alors que vous êtes au service militaire à Berlin. Comment vous vivez ce moment-là? Qu'est-ce que ça change?
Yari est née en 70, le 7 mai 1970. Ça change beaucoup de choses, devenir papa, parce que donc, c'est aussi des responsabilités. Donc, j'ai toujours voulu des enfants. J'avais toujours dit que si j'avais des enfants, je n'avais jamais abandonné mes enfants, que mon père m'a abandonné.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, ça ne va vraiment pas être possible pour moi de partir faire la guerre au Vietnam? Est-ce que ça finit de vous convaincre que vous ne voulez pas y aller?
Oui, c'était hors de question que je vais séparer lui et prendre le risque d'aller dans une guerre qui ne me concernait pas.
Vous étiez contre?
Bien sûr, nous étions contre la guerre en Vietnam parce qu'on trouvait que c'était une guerre injuste et raciste. Et moi, je me suis dit, il n'y a aucune raison que j'aille aller en Vietnam, parce que j'ai un fils.
La décision, je ne vais pas au Vietnam, et je n'ai pas d'autre solution que de rentrer dans la clandestinité, elle est venue très vite dans votre tête, quand vous avez compris.
Ah oui, quand vous avez compris qu'ils s'en foutaient de Jean et mon enfant, et aussi moi, le but c'était que j'aille aller en Vietnam, et on savait que si, d'aller en Vietnam, c'était une condamnation à mort. Quoi. Donc après, nous on dit, si on va là-bas, c'est pour nous tuer.
Peace now. La paix maintenant, la paix immédiate. À Washington, sur le parvis du Capitole, la première manifestation géante pour la paix immédiate au Vietnam 71, la plus importante peut-être jamais réalisée, a réuni ici des centaines de milliers de pacifistes dans une ambiance surchauffée. Des gens de tous âges, la jeunesse était dominante, de toutes classes, criant tous les slogans habituels, arrêtez le bain de sang, agitant les drapeaux les plus différents. Drapeau noir, drapeau rouge, drapeau blanc, naturellement aussi le drapeau du Viet Cong.
Melvin McNair, 22 ans, vous êtes papa, vous entrez dans la clandestinité avec Jean, votre compagne. Ça veut dire rentrer aux États-Unis, mais ça veut dire forcément vivre caché. Comment ça se passe?
Pas facile, compliqué. On n'est pas changé de nom. On a changé simplement la sécurité sociale. On était clandestin, mais on était public. Donc après, c'est comme on change l'identité, il faut changer un peu la façon d'être. Et comme tous les mouvements, le droit civique, c'était sous haute surveillance par l'FBI et donc aussi infiltré par les agents de l'FBI et policiers. Donc c'était très dangereux pour nous d'aller essayer de prendre contact avec ces associations-là comme ça.
Vous continuez à vous intéresser à toute la lutte, bien sûr. Comment vous faites pour vous tenir informé?
On continue à être informé par les journaux, par les livres, et aussi à travers la musique, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de musique. Nina Simone, Stevie Wonder, Marvin Gaye, il y avait beaucoup de gens qui commençaient, The Temptations, ils commençaient à parler justement à travers la musique des conditions sociales qui étaient en train de subir les Afro-Américains.
Si vous deviez choisir peut-être un des morceaux que vous écoutiez à l'époque, en tout cas qui reflète bien ce que vous viviez, vous, en tant que déserteur de la guerre du Vietnam, quel morceau vous pourriez partager avec nous?
Le morceau qui m'a touché beaucoup, c'était l'album de Marvin Gaye, What's Going On. Donc à l'époque, c'était profond. Mais à un moment donné, quand on chantait, on interprétait dans nos réalités à nous.
Justement, qu'est-ce que vous entendiez dans son texte?
Qu'est-ce qu'on entendait? Il nous parlait directement, comme il disait, What's Going On? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui se passe dans le quotidien? Donc après, réconcilie-moi. Donc après, aussi, qui va sauver les enfants?
Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
Qui va sauver les enfants? Donc après, à un moment donné, au niveau de l'esprit, au niveau du côté spirituel, on dit, OK, dans le monde, il dit, OK, moi, je vais sauver les miens déjà. Aussi, est capable de sauver les autres. Donc c'est quelque chose qui était énorme.
And picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Jean et Melvin McNair n'en peuvent plus de la clandestinité. Après la naissance de leur deuxième enfant, seul Melvin continue à sortir de la maison pour aller travailler. Jean et Melvin décident de quitter les États-Unis pour rejoindre l'Algérie, où les Black Panthers ont installé leur QG. Ils sont impressionnés par le pirate de l'air Black Panther, Roger Holder, et ils se disent que détourner un avion, finalement, c'est la solution. Melvin, 31 juillet 1972, avec vos amis, votre femme et vos enfants, vous détournez donc le vol 841 de la ligne régulière Détroit-Miami. Mais à l'époque, c'était un moyen d'action.
À l'époque, les détournements, c'était, je sais, très fréquent et c'est très quotidien. On peut dire, je ne sais pas combien par semaine, mais il y avait des détournements tout le temps.
Donc ça veut dire que vous avez pu rentrer dans l'avion avec des armes?
Oui.
Cachées?
Oui. Ben oui. Non, oui, de toute façon. De toute façon, c'était simplement des armes, comme on peut dire, simplement pour un effet psychologique. Ce n'était pas les armes pour faire un siège, quelque chose comme ça. Donc, parce qu'on avait quand même frustré, en colère, mais on était quand même intelligente et on était quand même zen dans nos façons d'être. Et il fallait être positif, il fallait respecter les autres, l'être humain, la nature. Aucune négativité qui devait venir de nous, aucune hostilité vis-à-vis des passagers. Et donc voilà. Donc après, sauf à un moment donné, bien entendu, il fallait convaincre le pilote que c'était un détournement de l'avion et les hôtesses de l'air que c'était un détournement de l'avion et c'était sérieux.
Le Les Algériens s'apprêtent à accueillir d'un moment à l'autre un DC-8 américain détourné hier au-dessus des États-Unis. À bord de l'avion, tout un groupe de pirates de l'air, 7 membres d'équipage et aussi un navigateur spécialisé dans les vols transatlantiques.
Le DC-8 a été détourné en plein ciel hier entre Détroit et Miami. Les pirates ont obligé le pilote à se poser à Miami. Là, les pirates ont obtenu une rançon $1 million, 5 millions de nos francs. Ils ont aussitôt libéré les 87 passagers. L'avion est reparti ensuite pour Boston. Les pirates ont exigé la présence d'un navigateur spécialisé dans les vols transatlantiques. D'accord, ont répondu les autorités. Tant mieux, ont répliqué les pirates. Mais pour éviter tout risque, ils ont demandé au navigateur de monter à bord de l'avion tout nu ou presque. Il est effectivement venu vêtu d'un seul slip de bain. Le DC-8 a alors décollé de Boston, direction l'Algérie. Mais Alger, qui suit avec beaucoup d'attention ce détournement, a tenu à faire une mise au point hier soir. Les Algériens veulent bien donner asile à un proscrit ou à un opposant politique, mais pas question, disent-ils, de recevoir un gangster qui a détourné un avion uniquement pour avoir de l'argent. Les Algériens sont tout de même embarrassés. Les pirates ont bien réclamé de l'argent, mais ces pirates ne sont pas apparemment d'affreux gangsters balafrés et farouches. Ce sont deux familles composées de deux hommes, deux femmes et trois enfants.
Melvin McNair, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous atterrissez à Alger ? Avec Jean, les enfants.
Dès qu'on arrive en Algérie, c'était un soulagement.
Quel est votre premier geste ?
Premier geste, déjà, on était entourés de l'armée. Donc, il y avait des bazookas, tout ça, qui étaient braqués sur l'avion, donc déjà. Et donc, le porte s'ouvre. Et donc, après, il y avait des agents secrets algériens qui sont montés dans l'avion en disant « Sois le bienvenu ». Vous êtes chez vous. Donc, on va vous mettre dans la main des Black Panthers. Donc, c'est mis sur le genou et j'ai embrassé la terre. La terre algérienne, j'ai merci le Seigneur qui nous a aidés jusqu'ici. Et donc, voilà.
Avec Jean, les enfants, c'était quoi votre rêve ? Qu'est-ce que vous imaginiez comme vie ?
Un petit utopie paradisiaque, quoi. Donc, après, où on pouvait mettre nos enfants à l'abri et commencer à résister le racisme et contre, se structurer pour lutter contre le racisme, quoi.
Pour vous, la terre d'Algérie, c'était d'abord la terre d'Afrique.
La terre d'Afrique et une terre de liberté. Dès qu'on est arrivé en Algérie, on a dit on est libre. Donc, avec toutes ces pressions, tout le racisme, tout ce qu'on a vécu, c'était derrière nous. Il n'y avait plus cette pression, plus cette répression, donc on était libre.
Où va l'argent ? Parce que vous arrivez en Algérie avec $1 million.
Oui. Oui, mais donc, de toute façon, c'était un peu les conditions avec les autorités algériennes, c'est de rendre l'argent et l'avion.
Donc l'argent va au gouvernement algérien ? Oui.
Non, le gouvernement algérien a récupéré l'argent et ils ont aussi retourné aux Américains. Et justement, c'est là que ça a posé un petit problème avec les Panthers sur place, notamment Darius Cleaver, qui n'était pas d'accord que le gouvernement algérien rende l'argent et qui avait écrit une lettre qui a un peu insulté le président Boumediene à l'époque en traitant de gendarme de l'impérialisme américain. Donc, M. Bouteflika, avec le ministère des Affaires étrangères à l'époque, M. Bouteflika.
C'est ça, c'est Bouteflika qui est très jeune d'ailleurs.
Qui était très jeune à l'époque et donc qui demandait vous n'êtes pas bien ici, on ne vous accueille pas, pourquoi vous insultez nos présidents et c'est qui écrit les lettres. On disait que c'est collectif, nous avons tous écrit les lettres. Donc, M. Bouteflika a dit mais attention, vous ne voulez pas qu'on vous rende en Amérique J'ai dit non, il dit, mais maintenant, à partir du moment, faites très attention et méfiez-vous de Cleaver.
La lune de miel entre les Black Panthers et la révolution algérienne se termine. Les uns après les autres, les Afro-Américains quittent le pays et Melvin et Jean doivent abandonner leur rêve d'Afrique.
La clandestinité qu'on a vécue en Amérique, c'était rien à voir avec la clandestinité qu'on a vécue quand on a décidé de quitter l'Algérie.
Étonnamment, ce n'est pas des Africains américains qui vous aident à partir de l'Algérie. Ce sont des Français, ce sont des Blancs.
Oui. Parfois, on est assez aveuglé par le racisme. On peut tout dire que tous les Blancs sont racistes, ce qui n'est pas vrai. Et donc, à un moment donné, on s'est rendu compte aussi, il y avait cette solidarité aussi avec les Français. Mais c'est aussi le contact de Donald Cox aussi et son réseau autour de lui que ces Français qui nous a compris, et on se demande comment, pourquoi, mais qui a eu le courage de nous accueillir en France et de nous aider de sortir de l'Algérie.
Donc c'est un réseau de solidarité qui a été créé en fait pendant la guerre d'indépendance des Algériens par Henri Curiel.
Oui. Oui, donc, mais de toute façon, à l'époque, on ne savait pas. Donc, pour nous, c'était une organisation secrète. Le nom de cette organisation, c'était Solidarité. Mais au début, on a donné un nom de code, on l'a appelé David. Il était cool, sympa. Il avait beaucoup confiance en nous. On était aussi accueillis par la résistance française. La résistance française et la résistance française. Donc, il nous a expliqué comment vivre dans la clandestinité. À un moment donné, on a dit qu'on peut se rendre. Le temps était long et donc on voulait aussi récupérer nos enfants. Donc après, on commence à parler avec les avocats qui peuvent nous conseiller. Et justement, avant qu'on commence à être dans ce moment de réflexion comme ça, c'est aussi qu'on était arrêté.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be.
On était arrêté le 25 mai 1976 à Paris par le DST. Ils ne souhaiteraient pas qu'on soit extradé parce qu'ils montaient quand même, ils avaient une certaine sympathie vis-à-vis la lutte de. Des Afro-Américains et ils étaient conscients du fait que la lutte contre le racisme, c'était légitime. Donc peut-être le détournement de l'avion, non, mais la lutte contre le racisme, donc il y avait cette compréhension et cette compassion pour ça. Donc ils étaient assez sympas. J'étais mis dans une cellule à Nanterre. C'était marqué dans la cellule « Working class hero is something to be ». Et j'ai toujours marqué par ça. A working class hero is something to be. Un héros de classe de travailleur est quelqu'un d'être. Est-ce que c'est ça?
Oui, un working class hero, c'est effectivement un travailleur héroïque. C'est quelqu'un.
Oui.
A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
En ce qui concerne le procès et son verdict, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de ce procès et de ce verdict et de votre peine de prison?
Je pense que les Français, ils ont très bien compris. Le procès, c'est un procès historique, extraordinaire. Donc, on a pris 5 ans. J'ai sorti après 3 ans, 9 mois. J'ai bénéficié de 15 mois de remise de peine. On avait 7 avocats quand même. Et donc, c'est 7 avocats et c'était un peu... top. Et donc après, eux, ils avaient bien expliqué le niveau de nos combats. L'idée, c'était de mettre les États-Unis et le racisme sur le banc pour dire que s'il n'y avait pas de racisme, on n'aurait jamais réagi comme ça. Le coupable pour nous, c'était l'Amérique, c'était le racisme. Donc les Français étaient très, très compréhensifs et ils ont compris que nos situations et donc ce qu'on voulait vivre normalement et donc humainement, le plus humainement possible et aussi de récupérer nos enfants.
Vous écoutez RFI, La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Sylvain Patieu, vous êtes l'auteur de Pirates et Panthères, les Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power aux éditions La Découverte et vous m'avez beaucoup inspiré dans ma rencontre avec Melvin McNair. Pour quelles raisons vous pensez que le choix du détournement d'avion auquel participent Melvin McNair et sa femme Jean et ses enfants pose autant la question raciale que la question sociale aux États-Unis?
Je dirais que le combat de Jean et Melvin pour la justice sociale, ils l'ont mené aux États-Unis et ils ont continué à le mener en France. Finalement, ce détournement, c'est un événement très rapide dans leur vie. Et ce qui suit est aussi important que cet événement-là, et ce qui a précédé aussi. Et disons qu'ils ont passé finalement plus de temps en France qu'aux États-Unis. Ils ont vécu plus longtemps en France que dans leur pays natal. Ils sont devenus français. Et cette question raciale, ils ne l'ont pas apportée avec eux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont américains qu'ils ont apporté la question raciale en France. Mais c'est bien parce qu'elle existe en France et elle existe aux États-Unis. Souvent, on a tendance à dire c'est pas pareil, la France, les États-Unis. C'est vrai. Aux États-Unis, il y a la ségrégation raciale, il y a l'esclavage qui font que c'est une histoire très particulière. Alors qu'en France, sur le sol métropolitain, parce que dans les colonies, c'était autre chose, sur le sol métropolitain, il n'y a pas eu d'esclavage ni de ségrégation raciale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de processus de racialisation. Et ces processus de racialisation, ils sont intimement liés aux questions sociales. On ne peut pas séparer les questions sociales et les questions raciales. Jean et Melvin, quand ils arrivent en France, ils vivent dans la clandestinité pendant quelques mois. Ils sont arrêtés, ils sont jugés, ils vont en prison. Donc ils côtoient la misère sociale en prison. Et puis, quand ils sortent de prison, il s'agit pour eux de refaire leur vie. Ils ne sont pas extradés vers les États-Unis, ce qui est une chance pour eux parce qu'ils auraient sans doute terminé leur vie en prison, là-bas. Mais la question se pose de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans la société française. Et ils s'implantent dans ce quartier de la Grâce de Dieu où vous êtes allé rencontrer Melvin. Ils deviennent travailleurs sociaux, en passant par le sport pour Melvin, parce que c'est sa spécialité, et en passant par l'aide aux devoirs pour Jean, parce qu'elle a été beaucoup plus studieuse. Et les questions de racisme qu'ils connaissaient aux États-Unis, ils les connaissent aussi en France, d'une manière différente. C'est-à-dire que la stigmatisation en France, pas simplement une question noir-blanc, comme il peut y avoir aux États-Unis, c'est aussi une question de stigmatisation des quartiers populaires, des banlieues. Justement, quand ils s'implantent à la Grâce de Dieu dans les années 1980, c'est le début de ce qu'on appelle le problème des banlieues à l'époque et de la stigmatisation de ces jeunes des banlieues. Et Dean et Melvin, ils se retrouvent, eux, à défendre ces jeunes, à être de leur côté, à faire des choses avec eux, à faire des choses pour eux, mais surtout des choses avec eux, et à faire des choses aussi avec les autres habitants du quartier. Et le fait qu'ils soient noirs, le fait qu'ils soient étrangers dans un quartier très multiculturel, dans un quartier avec beaucoup de personnes d'origine étrangères, beaucoup de personnes immigrées, fait qu'ils deviennent des intermédiaires dans ce quartier. Entre la population un peu plus âgée, souvent plus blanche, et la population plus jeune et plus métissée. Et le fait qu'ils soient noirs américains leur permet de jouer ce rôle d'intermédiaire et de devenir des personnes ressources dans leur quartier.
Pour ne pas dire des stars.
Oui, non, quand même pas.
Melvin McNair, quel regard vous portez sur votre investissement? Vous n'avez pas pu changer le monde avec le détournement d'avion, mais vous avez travaillé à changer les choses, à les améliorer au sein d'un quartier. C'est ça le sens que vous avez donné à votre vie?
Mais moi, je peux dire que j'ai toujours dit, avant que parler aux autres, il faut bien balayer devant chez soi. Donc après, il faut comprendre ce qui se passe autour de soi, dans sa famille, dans son entourage, des choses comme ça. Donc après, c'est justement, il faut sauver sa voisine, il faut sauver le gamin qui est à côté, c'est justement ça. Et donc, on prend ça en considération. Et donc après, c'est, comme on dit, à un moment donné, de transmettre une idée de vivre ensemble, d'être solidaire, de l'accompagnement, des choses comme ça, et ouvert vers l'autre. Je ne pouvais pas vivre tranquillement quand je vois qu'il y a des souffrances à côté de moi.
C'est quoi votre fierté ici à Caen, dans ce quartier, à la grâce de Dieu?
Fierté, c'est d'être respecté et reconnu en tant qu'un être humain qui pense aux autres.
Je travaille au sein de l'association qui s'appelle Le Tunnel, je suis médiateur.
Mohamed Belaïdi.
Dans le quartier de la Grâce de Dieu, que là où il habite aussi Melvin. Et donc Melvin, ça va faire une trentaine d'années que je le connais.
Vous aviez quel âge lorsque vous avez rencontré Melvin?
Quand j'ai rencontré Melvin, franchement, j'avais quoi? J'avais, je crois, 20 ans. Et voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment... À travers lui aussi, on a appris beaucoup de choses. Donc, on a appris déjà le respect. C'est quelqu'un qui est très respectueux. C'est quelqu'un qui est vraiment investi dans le quartier. Parce qu'il a aussi, il avait une association qui faisait de baseball. Donc, voilà, moi, ça va faire pareil. Ça va faire une vingtaine d'années que je fais de la musique avec le groupe qui s'appelle Calma.
Et Calma, ça veut dire quoi?
Calma, qui veut dire honorer sa parole.
Et vous allez honorer votre parole et celle de Melvin en nous offrant un morceau.
انا مانيش مجنون ومانيش عقول يا انتوما اللي بدلتوا دينكم بتقدماي اي اي
اي اي C'est le morceau préféré de Melvin.
Ouais. C'est le morceau que Melvin aime beaucoup.
Voilà. Et ça raconte quoi?
Et ça raconte, et ben ça parle de ce monde d'aujourd'hui qui est pas vraiment stable ni pour nous ni pour nos futurs enfants.
Sylvain Patieu, pour conclure, vous écrivez dans le livre d'histoire que vous avez consacré à Melvin et Jean McNair, qui s'intitule Pirate et Panthère. Ils m'ont permis de comprendre comment, dans ce voyage au long cours qui les a vus traverser l'Atlantique puis la Méditerranée, Melvin et Jean ont su, loin de leurs racines, planter et faire grandir de nouvelles graines jusqu'à dresser vers le ciel des espoirs neufs. Vous êtes touché par ce couple?
Oui, je suis touché par leur histoire, par l'histoire de Jean et Melvin, alors sans pour autant les idéaliser, parce qu'ils ont fait des erreurs dans leur parcours, ils ont fait des choses qu'ils regrettent. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'ils sont passés sur 3 continents, ils sont passés sur plusieurs époques. Ils ont resté fidèles à leurs principes, à la volonté de se battre pour la justice sociale, même si les formes qu'ils ont utilisées ont changé. Et puis, ils représentent, je dirais, les circulations transatlantiques aussi, c'est-à-dire comment les idées, les pratiques, elles passent entre la France et les États-Unis. Et ce n'est pas des modèles qu'il s'agirait de copier, mais c'est comment eux... Ils ont essayé de faire dans leur quartier ce qu'ils avaient connu quand ils étaient jeunes, dans leur quartier noir où ils étaient charpentés par la communauté, tenus et protégés par cette communauté, avec la question de la religion qui était importante pour eux aussi et qu'en France, souvent, on met un peu sous le boisseau. C'est un parcours de rédemption ce qu'ils font. Ils ont réussi à refaire leur vie alors que cet événement, ce détournement d'avion, aurait pu la briser, aurait pu briser leur vie, mais... Ils ont réussi à se reconstruire et à tisser une vie qui est une vie française. Même s'ils sont américains, même s'ils sont noirs américains, ce qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est une vie française, mais une vie qui ne néglige pas les circulations qu'il peut y avoir entre la France, les États-Unis et le reste du monde.
Merci Sylvain Patieu. Je rappelle votre livre Pirates et Panthères aux éditions La Découverte. J'embrasse très fort Melvin McNair pour cette journée mémorable passée à Caen, à la grâce de Dieu, avec tous les gens du quartier. Et une spéciale dédicace à Mohamed Belaïdi du groupe Calma pour nous avoir offert sa chanson. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon, réalisé par Sophie Janin. Réagissez sur Facebook et Twitter, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.